Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue sur l'antenne de Radio Grand Ciel pour l'émission.
Bonjour Jérusalem.
Avec Elisabeth à mes côtés et Émilie à la régie de Radio Grand Ciel.
Bonjour Christine et bonjour Émilie. Alors Christine, qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui ?
Eh bien, vous savez qu'après le sujet du post-colonialisme et du sionisme, comme vous le savez, nous avons encore beaucoup de sujets à faire connaître à nos auditeurs. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un sujet dont on parle peu en Israël et qui nous interpelle, nous, les femmes.
Surtout à cette période-là, n'est-ce pas ? Alors, de quoi s'agit-il ?
On est en plein dans la journée de la liberté des droits de la femme. Donc là, nous allons parler de la lutte contre le trafic sexuel de centaines de femmes qui séjournent illégalement dans l'État d'Israël et qui sont victimes d'abus. Au fil des ans, on a constaté une baisse drastique du nombre de demandes de statut approuvées par les femmes illégalement arrivées en Israël.
Avez-vous des exemples à nous compter, Christine ?
Oui, voici quelques exemples de violences que l'on constate, hein, bien sûr. Il s'agit d'une jeune femme, Amani, qui est palestinienne, 39 ans, mère de 7 enfants. Depuis l'âge de 14 ans, son père la frappait et l'a forcée à épouser un arabe israélien.
Et alors, que s'est-il passé ?
Toujours victime de violences domestiques de la part de son époux, son beau-frère a également commencé à la violer régulièrement et même sa belle-mère s'est mise à l'agresser. Ils étaient tous mis de concert.
La malheureuse rien ne s'arrêtait pour elle.
Non, car après 18 ans de mariage, son mari est décédé. Elle a dû retourner chez son père avec ses enfants. 3 ans plus tard, il la force à nouveau à se remarier. Cette fois avec un homme de 64 ans, également originaire d'un village arabe en Israël, qui l'enfermait, la battait et la violait si elle refusait les rapports sexuels avec lui.
Alors, elle est devenue par soumission et par violence une sorte d'esclave sexuelle.
Ah ben oui, bien évidemment, ce type de violence, d'humiliation, enfin c'est un cycle de violence, d'humiliation et de désespoir. Puis Amani a tenté de mettre fin à ses jours. Prise en charge dans un hôpital, elle a été ensuite placée avant d'être transférée dans un foyer pour femmes en Israël.
Alors Amani n'avait sans doute plus envie de retrouver son village natal et ses parents, craignant pour sa vie et celle de ses enfants. Alors qu'a-t-elle fait, la pauvre ?
Bien, elle s'est retrouvée à dormir chez des amis ou dans les rues. N'oublions pas cependant que son père avait tous ses papiers d'identité et que de ce fait, elle ne pouvait même plus travailler.
Alors, où vit-elle, la pauvre ?
Alors, grâce à l'aide d'une association Ila Leshla, c'est un peu compliqué à prononcer, Amani a retrouvé refuge au centre, un endroit sécurisé, Haifa Feminist Center, mais n'a plus de statut légal en Israël et sans papier, elle ne peut bien sûr subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
Alors, vous pouvez nous dire un peu plus de ce centre ?
Eh bien, c'est un centre qui a été créé en 1983. Il est basé à Haïfa et est devenu l'une des principales voies pour la défense des droits des femmes en Israël. Il indique sur son site que ses principaux domaines d'activité comprennent la lutte contre la traite des femmes et la prostitution, la protection des femmes et des technologies médicales, la construction d'une communauté de femmes autonomes.
Alors, existe-t-il un statut de victime pour femmes battues en
Israël ? Eh bien, oui, figurez-vous, il s'agit de l'article 2103A du Code pénal qui régule le...
Les femmes
l'état des femmes victimes de trafic sexuel et autres délits du même genre, qui existent bien sûr, mais a longtemps été ignoré par l'autorité de la population et de l'immigration israélienne.
Alors Christine, il y a encore beaucoup d'autres femmes dans cette situation, parce que bon, c'est un exemple, mais
malheureusement,
c'est
oui,
pas la seule.
Non, il y a des femmes enlevées pour être vendues à des citoyens israéliens qui deviendront des esclaves sexuels et des travailleuses sans papier et sans statut légal, même si elles sont mères d'enfants déclarées citoyens israéliens. C'est un peu anachronique.
Alors, elles sont invisibles, finalement, aux yeux de la loi israélienne.
Oui, puisque les témoignages de ces femmes offrent ainsi un rare aperçu de la vie des femmes victimes d'abus domestiques sans statut légal.
A-t-on une idée du nombre de femmes esclaves sans statut légal en Israël ?
Alors, une étude d'une ONG dédiée à la protection des droits des réfugiés, des travailleurs migrants et des victimes de la traite d'êtres humains, nommée Hotline for Refugees and Migrants, précise qu'entre 2010 et 2018, cette ONG a été sollicitée par 93 femmes battues cherchant à obtenir un statut légal En Israël.
Et combien de femmes ont reçu le permis de séjour en Israël, parfois avec une validité d'au moins un an?
Un mois, oui. D'un an ou même moins parfois. Ah oui. Seules les 48 demandes ont été satisfaites, c'est-à-dire la moitié des femmes environ, ce qui brosse un tableau bien sombre de la situation, révélant une baisse constante et drastique du nombre des demandes acceptées.
Alors, quel est le pourcentage de ces demandes?
En 2010, il y avait 73% des demandes soumises par des femmes battues cherchant un statut légal en Israël qui a été, ont été approuvées. Et en 2018, seulement 37%. Donc, vous voyez bien qu'on a
une diminution.
Le taux a baissé. Mm-hmm. De plus, alors qu'en 2010, deux demandes de femmes sans enfants étaient approuvées, toutes celles des statuts déposés par des femmes sans enfants ne reçoivent bien sûr aucune réponse.
Et pourquoi cette discrimination?
Parce que les données officielles semblent ne révéler qu'une fraction du nombre réel de cas d'abus. Il s'avère que si le comité spécial formé par le PIA pour examiner ces requêtes étudie des dizaines de cas par an, il y a des dizaines, potentiellement des centaines, de requêtes supplémentaires qui sont systématiquement l'objet
De rejet
et encore moins d'une enquête.
Ah oui, d'accord. Alors, comment se déroule cette procédure?
Alors, les requêtes sont présentées et déposées auprès de l'un des dizaines de bureaux d'évaluation de l'impact sur la vie privée dans tout le pays, où sont conservés, bien sûr, les dossiers physiques de chaque femme. Des dizaines de demandes sont rejetées à ce stade précoce. Si une requête passe, elle est examinée par le chef du bureau des visas, qui rejette également des dizaines de requêtes non déposées pour des tas de raisons, en plus de raisons humanitaires, même si la Cour suprême a décidé qu'à ce stade, seules les requêtes qui n'ont absolument aucune chance d'être accordées par le comité devraient être rejetées. La réalité est que seuls un ou deux cas par mois parviennent au comité.
Cette incapacité démontrée par l'État de s'occuper de ces femmes a des conséquences tragiques pour ces femmes et pour leurs enfants.
Oui, bien sûr, imaginez déjà les témoignages d'Amani et de Lena, une autre femme israélienne, ont été inclus dans une audience publique organisée en décembre par la Hotline pour les réfugiés et les migrants. Et Isha Leshla, c'est elle qui l'a organisé, évidemment, ces témoignages. Alors, visait à rendre public l'incapacité de l'État à traiter le phénomène des femmes maltraitées, ignorées par le système en raison de leur absence de statut juridique et qui ont enduré toute leur vie des difficultés et des violences de toutes sortes.
Ces femmes et leurs victimes de la situation mondiale et politique et de l'utilisation de la violence dans le cadre d'une vision du monde considèrent ces femmes comme des biens, objets, quoi. Malheureusement.
Malheureusement.
C'est vraiment choquant.
C'est choquant, et puis on ne tient pas compte de la réalité. Bien souvent, les pourcentages des dossiers qui sont...
Nos petits problèmes d'ego ici, ça paraît tout à fait dérisoire à côté. Voilà, on va peut-être faire une petite pause musicale de quelques instants avant de reprendre cette conversation. Thank you. Christine, nous reprenons notre discussion dans notre émission « Bonjour Jérusalem ». Alors, après l'évocation de la situation difficile de ces femmes palestiniennes, de quoi allons-nous parler maintenant? J'espère quelque chose d'un peu plus gai quand même.
J'espère qu'on va voir un sujet chassant l'autre. Il va être question maintenant de femmes israéliennes cette fois-ci, hein, dans cette seconde partie de notre émission. Mais cette fois, le sujet est moins dur, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui, loin de son village bédouin, lutte pour les femmes et la paix dans son pays.
Qui est cette femme, Christine?
Alors, titulaire d'un doctorat, Ami Elzana Al-Jol se bat pour une plus grande égalité entre les hommes, les femmes, les juifs et les arabes dans son pays.
Vaste sujet, je lui souhaite bon courage. Alors, c'est un combat qui est malheureusement toujours d'actualité.
Eh oui, exact, Elisabeth. Loin des élevages de moutons en Terre Sainte, où elle est devenue une éminente femme féministe bédouine israélienne, Alma Elzana dirige aujourd'hui le réseau d'action communautaire internationale à l'université McGill de Montréal.
Ah oui, parce qu'elle n'est pas n'importe qui alors.
Mais non, c'est pas n'importe
quel
qui.
Quel fut ce chemin de vie pour arriver aussi loin? C'est incroyable. Hein?
Bah écoutez, pour elle, ça a été un voyage personnel presque improbable vers Montréal. Bien sûr, après avoir été bergère dès l'âge de 5 ans aux abords de son village bédouin, délabré et brûlé par le soleil, irradiant le désert du Negev, elle a finalement obtenu son doctorat en travail social à McGill, à Montréal, bien sûr, et s'exprime désormais dans des forums internationaux, tout en poursuivant un post-doctorat à l'université d'Harvard.
C'est vraiment fun, déjà un parcours impressionnant.
Hein. Bien sûr. Elle n'hésite pas à évoquer sa vie de petite bergère et se souvient que sa grand-mère disait qu'elle n'avait pas besoin d'elle dans la cuisine. Ce à quoi retorquait le grand-père, mais nous avons besoin d'elle pour garder les moutons. Et c'est comme ça qu'elle raconte les réveils aux aurores, partir pieds nus avec 50 moutons, 3 vaches et un âne sur les chemins caillouteux de sa contrée.
C'est formidable, tous les chemins mènent par roi, mais à McGill, n'est-ce pas? Alors, où habite-t-elle maintenant?
Alors, elle a trouvé à s'installer dans un quartier montréalais de Notre-Dame-de-Grâce avec son mari et leurs jumeaux de 17 ans. Bien qu'elle vive hors d'Israël depuis 2012, elle reste quand même fidèle à son engagement pour la cause bédouine, la défense des droits de la minorité arabe et en faveur d'une plus grande coopération arabo-juive.
Alors, pouvez-vous, Christine, nous parler de l'ICANN, cette organisation dont elle est aujourd'hui la directrice exécutrice?
Oui, bien sûr. Cette organisation a été fondée en 1994 par Jim Torzener, fils de survivants de la Shoah, et s'appelait à l'origine « Programme de McGill pour le Moyen-Orient en matière de société civile et de construction de la paix ». Elle rassemble maintenant des Israéliens, des Palestiniens, des Jordaniens, des Syriens qui viennent étudier à la faculté de Montréal avant de retourner pendant un an dans leur communauté respective afin de travailler sur le terrain avec les populations à risque.
Alors, quel est le projet en vue de cette organisation?
Ce futur projet implique des Israéliens juifs et arabes de la ville mixte de Lod qui collaborent pour améliorer la vie des deux communautés.
C'est donc un beau projet en soi, n'est-ce pas?
En soi, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas oublier qu'Elzana a combattu longtemps pour son peuple et qu'elle est considérée comme un leader dans la communauté bédouine d'Israël. C'est aussi une figure d'autorité en ce qui concerne le statut de la minorité arabe et des femmes en Israël.
Alors, j'imagine que l'émancipation des femmes dans une société bédouine dominée par les hommes n'a pas été de tout repos pour cette organisation.
Bah, vous imaginez ce que peut être une société bédouine. Je ne dis pas qu'on recule, mais c'est vraiment très traditionnel.
Je pense que ça n'a pas énormément changé dans les dernières années.
Je pense que dans la base, ça n'a pas dû changer. À mon avis, on en est resté au même. Sauf qu'on s'améliore, on arrive à plus de dialogue. Bien entendu, cela fut difficile quand même. Hein. Malgré tout, elle a créé la première organisation de femmes bédouines. Elle est devenue directrice fondatrice du Centre judéo-arabe pour l'égalité, l'autonomisation et la coopération. Elle a même reçu de nombreux prix humanitaires internationaux et a fait partie d'un groupe de 100 femmes distinguées, nommées collectivement pour le prix Nobel de la paix en 2005.
Elle est vraiment extrêmement courageuse, cette femme. Ouais. J'ai même lu qu'à l'étranger, elle fait d'Israël l'éloge, y compris dans son post-doctorat de Harvard.
Tout à fait, elle se concentre sur la violence sexiste, en particulier contre les femmes arabo-israéliennes assassinées par le mari ou d'autres proches, et sur la réaction du gouvernement et des organisations de femmes arabes face à ce problème.
Ou peut-être, je dirais même, la manque de réaction, quelquefois. Ouais. Alors, l'histoire de cette femme, Christine, est assez exemplaire. Et si sa vision demeure inchangée, et portera sur le mieux vivre ensemble en Israël, c'est formidable. Hein. J'ai remarqué aussi qu'elle a souvent utilisé dans ses entretiens les termes palestinien, arabe-israélien et même israélien-palestinien, de manière interchangeable.
Ah oui, tout à fait, oui. Et c'est ce qui fait en fait sa force, parce que
elle touche tout le monde, finalement.
Voilà, elle englobe toutes les castes déjà et toutes les...
Oui. Oui, toutes les couches de la société.
Toutes les couches de la société arabo-juive.
Alors, on va changer de sujet peut-être avant, voilà, avant quelques notes de musique peut-être. Alors, on va reprendre notre conversation, Christine, dans notre émission « Bonjour Jérusalem », dont nous attaquons la troisième partie. Alors, vous évoquiez, il me semble, la cartographie du sol de la basilique de Saint-Sépulcre. On ne peut pas dire que notre émission n'est pas variée. Ça change beaucoup.
Effectivement, il y a quelques jours a commencé la cartographie du sol de la basilique du Saint-Sépulcre, réalisée par le Centre de conservation et restauration du patrimoine culturel, qui s'appelle la Venaria Reale de Turin, et le département des sciences de l'Antiquité de l'Université La Sapienza de Rome.
Ah, Turin, justement, d'où est originaire votre famille.
Oui,
c'est ça, exactement. Alors, en quoi consiste exactement ce projet, Christine ?
C'est un engagement de ces deux institutions universitaires italiennes qui s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre les trois grandes communautés chrétiennes de Terre Sainte, gardienne de la basilique et responsable du statu quo, au sein du Saint-Sépulcre. Sur la base de cette entente entre les principales confessions chrétiennes, la custodie de Terre Sainte a signé en octobre dernier un accord de collaboration avec les institutions que je viens de nommer.
Alors, quelle a été la première étape de ce projet ?
Alors, tout d'abord, une étude historico-archéologique approfondie de l'état actuel du sol de cette basilique sera bien sûr préparée afin d'établir à une date ultérieure un projet exécutif des travaux de restauration qui pourraient être nécessaires.
Alors, ce qui veut dire, Christine, que la première étape de ce travail sera donc la cartographie du sol.
Voilà.
Avant ça,
c'est vraiment une opération très très importante, mm-hmm, et qui consiste à photographier.
C'est la fondation de ce travail.
Voilà. Et qui consiste à photographier l'ensemble du pavement de la basilique par balayage laser, mm-hmm, et en retravaillant numériquement, pierre par pierre, comme l'a expliqué l'architecte palestinien Osama Hamdan de l'université Al-Quds de Jérusalem qui travaille, lui, sur ce projet. La deuxième phase du programme est fondamentalement structurée dans l'analyse du document cartographique afin d'évaluer l'état de conservation, c'est-à-dire la dégradation qu'a subi chaque dalle du sol. Mm-hmm. Vous alors, imaginez.
Quel travail énorme. Alors, cela permettrait également d'étudier le type de matériaux et l'origine de ces matériaux, c'est-à-dire la provenance de ces matériaux avec lesquels le sol de la basilique a été fabriqué.
Oui, tout à fait. Et outre la grande valeur accordée à la préservation du Saint-Sépulcre en tant que bien culturel, ce projet est d'une grande importance pour la sécurité de la basilique et donc pour la sécurité des visiteurs, dont le nombre a augmenté de manière exponentielle au cours de l'année 2019, c'est-à-dire l'année dernière.
C'est un sujet qui mérite qu'on y revienne et on en reparlera très certainement plus tard, Christine. Alors.
Oui, je pense effectivement qu'il y aura une suite et on y reviendra certainement dans les émissions prochaines. Un autre sujet nous passionne actuellement aussi, c'est la découverte d'un manuscrit biblique de plus de 1000 ans retrouvé dans une synagogue du Caire.
Alors, qu'a-t-il de si particulier à part qu'il ait plus de 1000 ans?
C'est une découverte qui a été faite par hasard en juillet 2017 par un historien israélien qui recherchait un manuscrit biblique datant de 1028 et qui a été retrouvé, bien préservé. En fait, il est abandonné sur une étagère poussiéreuse d'une synagogue au Caire.
Ah, vous voyez, c'est l'époque de Fulbert à Chartres, pour le situer, n'est-ce pas? Alors, personne n'y avait alors prêté attention, je suppose.
Non, pas du tout, car il était enveloppé dans un simple papier blanc. Vous savez, ce même papier qui sert de nappe sur les tables des restaurants, pas de gamme, on va dire. Ce manuscrit Zecharia Ben Hanan est l'un des plus complets de l'époque et l'un des exemplaires les mieux préservés des écrits, soit la troisième section de la Bible hébraïque.
Alors, depuis combien d'années en avait-on perdu la trace?
Ça faisait au moins une quarantaine d'années environ. Ça a été découvert.
J'imagine à cause du papier qui n'est pas si vieux que ça.
Enfin, oui, le papier blanc. Il attirait pas l'œil. Hein. Évidemment, découvert par Yoram dans la synagogue Moussa Deri Karaït, confession Karaït, hein, bien sûr. Mm-hmm. Le manuscrit Zecharia Ben Hanan avait été précédemment cité dans des publications variées de spécialistes modernes de la Bible, depuis un article écrit en 1905 dans le Jewish Quarterly Review par l'éminent Richard Gottel, jusqu'à des microfilms du manuscrit qui avaient été réalisés par une équipe israélienne de l'Institut des manuscrits hébraïques microfilmés en juin 1981.
Je crois qu'on devrait prendre des cours d'anglais et des cours d'arabe pour mieux prononcer tous ces mots qui ne sont pas toujours faciles.
C'est pas toujours évident.
Voilà. Alors, oui. Heureusement encore qu'il y avait des écrits quelque part quand même.
Ah oui, parce que les experts avaient laissé des notes. Heureusement, ils avaient laissé des notes dans les textes et avaient même publié leurs conclusions. Par la suite, alors que la communauté juive se faisait de plus en plus rare en Égypte, ce manuscrit inestimable a lui aussi disparu.
À quelle date ont débuté les recherches?
Bien après des décennies de voyages au pays des pharaons pour ses publications universitaires en tant que professeur à l'université Ben-Gourion, Yoram Metal s'était retrouvé au mois de juillet 2017 au Caire en tant que spécialiste venu à titre privé participer à un projet communautaire juif dirigé par l'organisation Goutte de lait pour collationner des informations sur les nombreux éléments manquants pour un prochain livre.
Y a-t-il eu des résultats probants et fructueux?
Ah ben oui, tout à fait. Hein, son déplacement au sein de la synagogue Moussa Deri, qui a été, elle, construite en 1933, avait pour objectif de collecter des informations sur son architecture impressionnante. Elle avait été construite à l'apogée de la communauté juive, de sa richesse et de sa force, et sur ses nombreux vitraux et autres ornements remarquables.
Ce projet est-il toujours en cours?
Et effectivement, c'est une opportunité de revenir sur la richesse du patrimoine juif égyptien, permise par l'arrivée au pouvoir en 2014 du président Abdel Fattah el-Sissi et l'élection en 2013 de la responsable actuelle de la communauté juive au Caire, Magda Haroun, à la tête de l'association Goutte de lait.
Je crois savoir que la communauté ne compte dorénavant qu'une poignée de juifs. Mais selon la loi égyptienne, c'est elle qui contrôle les biens et les artefacts relevant de son patrimoine, n'est-ce pas Christine ?
Alors, vous avez raison Elisabeth, hein, ces dernières années, les initiatives se sont multipliées pour documenter, préserver et mettre en valeur le patrimoine juif égyptien, comme l'ont d'ailleurs montré la réinauguration de la synagogue rénovée d'Alexandrie, qui a eu lieu le 14 février dernier, ainsi que les travaux importants entrepris dans les cimetières juifs, laissés à l'abandon pendant longtemps. En Égypte, rien ne peut se faire sans le feu vert clair, émanant du sommet de la pyramide.
C'est normal, c'est partout pareil. N'imaginons pas que ailleurs, c'est pas la même chose. Voilà, je crois qu'on va terminer notre émission là-dessus et peut-être le mois prochain, on continuera à découvrir encore d'autres sujets bien intéressants qui me parlent beaucoup plus plaisants que le début de notre émission. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, n'oublions pas ces pauvres femmes maltraitées, mal vues et pas soignées et quasi inexistantes ou non pour la société.
Oui, mais il faut en parler justement.
Exactement. Merci d'avoir lancé ce sujet. À bientôt.
À tout le monde.